Des ondes, des ailes, sur Radio Ondaine, un rendez-vous mensuel avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de la Loire. Un tour d'horizon en vol groupé pour découvrir les oiseaux de notre territoire, la faune, la flore et toutes les personnes qui s'engagent pour connaître, protéger, sensibiliser et favoriser la biodiversité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO Loire, une association au service de la nature et des hommes, sur Radio Ondaine 90.9 FM et sur le www.radio-ondaine.fr.
Pour ce numéro du mois de mai, nous allons rencontrer dans son refuge Bertrand Montagny, bénévole à la LPO. Un refuge LPO, c'est un lieu d'accueil pour la flore et la faune sauvage autour de chez soi.
Je suis engagé à la LPO depuis très longtemps, enfin depuis qu'elle existe dans la Loire, hein, parce qu'avant c'était une association ornithologique qui s'appelait le CORA, Centre ornithologique Rhône-Alpes, et je me suis toujours intéressé à la nature et en particulier au jardin. Et j'en ai fait mon métier puisque j'ai été jardinier à la ville de Saint-Chamond pendant plus de 35 ans. Alors les refuges LPO, ça s'adresse aux gens qui ont envie de faire quelque chose pour la nature autour de chez eux, c'est-à-dire dans leur jardin, même un balcon, hein, ça peut faire l'affaire, et qui décident de respecter une charte qui consiste à ne pas utiliser de produits chimiques, à faire en sorte d'accueillir la faune sauvage et puis la flore sauvage aussi. Et en respectant cette charte, que beaucoup font déjà en particulier, mais là, bon, c'est signer un petit peu un acte pour la nature auprès de, dans son jardin pour faire en sorte que là, ça soit vraiment acté, quoi.
Alors, cette charte, peut-être sans la raconter en détail, mais donner ces grandes lignes, quelles sont-elles, comment elles ont été réfléchies et de quand elles datent ?
Alors, ça date de plus d'une centaine d'années, parce que la LPO est une très vieille association, hein, elle a été créée en 1912, et les refuges LPO ont suivi en 1920, je crois exactement. Et donc, ça fait plus de 100 ans que les refuges existent. Alors, on inscrit sa propriété foncière à la charte des refuges, donc j'en avais parlé un petit peu en préalable, c'est de respecter la nature dans son ensemble, au niveau de son jardin, de sa propriété, pour faire en sorte d'être un accueil, c'est pour ça que ça s'appelle refuge, à la faune et à la flore sauvage autour de chez soi.
Quand on s'investit, on le fait de quelle manière finalement? Quand on veut créer son refuge, quand on veut identifier sa propriété comme refuge LPO, comment on procède? Est-ce qu'il faut contacter la LPO? Est-ce qu'il faut vous
Bien
contacter
sûr. Ben, on s'inscrit auprès de la LPO, comme quoi on a décidé de devenir refuge LPO. Alors la première inscription, elle est de 35 euros. Alors après la suite de quoi on déclare son jardin comme refuge LPO et on obtient un kit avec une pancarte pour affirmer son appartenance au refuge LPO qu'on met à l'entrée de son terrain. Ensuite, on a des nichoirs, on a aussi tout un tas d'informations sur comment faire pour faire en sorte d'accueillir au mieux possible la faune sauvage. Donc voilà, c'est une chose très très simple, hein, en fait. Et à la suite, une fois qu'on s'est inscrit au départ, après c'est plus qu'une cotisation de 15 euros par an pour continuer à avoir des informations et toujours inscrire son terrain en tant que refuge actif, quoi.
D'accord. Alors, vous évoquiez tout à l'heure en début d'entretien que on peut être refuge en milieu rural, en milieu urbain. Un balcon suffit pour être refuge. Est-ce qu'il y a une cartographie qui existe des refuges LPO dans la Loire? Est-ce qu'il y a des zones plus représentées que d'autres? Est-ce que dans des milieux très urbains, vous essayez peut-être de motiver plus de personnes ou ça se fait naturellement?
Ben, dans le département de la Loire, c'est à peu près réparti un petit peu sur l'ensemble du département, aussi bien en ville qu'à la campagne. C'est très varié, hein, les refuges. Alors on a des refuges particuliers, c'est-à-dire des citoyens qui s'inscrivent dans cette démarche, et puis aussi des collectivités, des établissements, ça peut être même des entreprises hein, qui s'inscrivent en tant que refuge. Et là, c'est représenté aussi au niveau du pays tout entier, hein, puisqu'on a à peu près 40 000 refuges dans toute la France, hein, et ça représente une superficie de 50 000 hectares, ce qui correspond à peu près à un parc naturel régional, voilà, en superficie. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est vraiment une forme de protection importante, hein, surtout pour la faune de proximité qui est... dans certains endroits un petit peu, enfin même plus qu'un petit peu en difficulté. On a vraiment une disparition du nombre du nombre d'individus par espèce qui est assez important, de l'ordre de 30% à peu près sur l'ensemble du pays, quoi.
Alors, à la fin de ce mois de mai, le 28 exactement, vous organisez une visite d'un refuge, c'est le vôtre, un refuge LPO dans un jardin de moyenne montagne. Et bien on va le décrire à la radio. Qu'est-ce que votre refuge ?
Alors, mon refuge, il n'est pas très grand. Il fait à peu près 1000 mètres carrés. Hein, donc, c'est un petit jardin autour d'un pavillon des années 70. Hein, donc, c'est très, très modeste. Mais on peut y voir énormément de choses, hein, parce que j'ai une diversité de plantes, déjà, parce que la diversité des végétaux vont impliquer la diversité des espèces animales qui vont y vivre. Donc, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, sur ce petite surface, j'ai 250 espèces de plantes à fleurs, par exemple. Alors, arbres, arbustes, voilà. Et puis, il y a une mare aussi, hein, parce que c'est un petit peu un milieu qui est très important pour tout un tas de petites espèces aquatiques. Et puis, je fais du compost, par exemple. Alors ça, c'est hyper important aussi pour diminuer les déchets. On est vraiment dans une démarche écologique. Et puis, en même temps, pour nourrir le sol, parce que le compost est une des bases du sol vivant, quoi.
D'accord. On parle de la LPO, on parle aussi des espèces d'oiseaux, hein, c'est le nom, la Ligue de protection des oiseaux. On parle de nichoirs, il y en a dans votre refuge ?
Ah oui, bien sûr, il y a des abris de toutes sortes, alors des nichoirs, mais des refuges à chauves-souris aussi, il y a un hôtel à insectes aussi, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on essaye par ces petits aménagements de faire que la faune soit la plus représentée possible, hein, et on fait pas de, il n'y a pas de parti pris, hein, toutes les espèces sont bienvenues, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre espèces. On ne favorise pas une espèce au détriment des autres. Non, tout le monde est bienvenu.
Alors, nos auditeurs ne vont peut-être pas tous s'inscrire en tant que refuge LPO. Néanmoins, est-ce que vous auriez des petits conseils ? Je reste sur cette idée de nichoir. Si on a un arbre dans son jardin, dans lequel on voudra accrocher peut-être une petite maison à oiseaux, quels sont les conseils que vous donneriez, notamment au niveau de sa taille, au niveau de sa hauteur, au niveau de son accessibilité ?
Alors déjà, dans un premier temps, pour l'installer, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas trop bas, parce qu'il peut y avoir la prédation, quand c'est surtout autour des maisons et tout, du fameux chat, hein, qui peut poser problème. Mais si on installe son nichoir à une certaine hauteur, sur un tronc relativement peu branchu, ou même dans un épineux, hein, qui protège les nichées très très bien... la taille du nichoir, il ne faut pas que ça soit trop important. Alors souvent, nous, les nichoirs à mésange, on appelle ça boîte aux lettres. Alors, vous voyez, c'est une petite boîte, hein, qui fait... je ne me souviens plus exactement des côtes, mais ce n'est pas très très grand, quoi. Ça doit faire 15 cm par 15 cm et 25 cm de haut, quoi, à peu près. Hein. Et puis les trous d'envol sont importants. Là, on peut les varier de taille, qui fait qu'on va accueillir des espèces différentes suivant le diamètre du trou d'entrée.
C'est une activité que l'on peut faire soi-même, le construire. Hein. On peut imaginer des parents avec leurs enfants et développer un peu ces nichoirs-là, les installer. Vous, dans votre quotidien, il y a ce côté accueil, hein, de cette biodiversité avec cette faune, cette flore. La flore, on voit tout de suite, hein, le fait de pouvoir regarder, le plaisir des yeux, de voir grandir des plantes différentes. Est-ce que vous passez du temps à observer aussi vos hôtels à insectes, vos nichoirs, à prendre aussi un moment pour regarder les mouvements ici et là dans votre refuge ?
Ben bien sûr, on a un grand plaisir à voir toutes les espèces qui viennent s'y installer. Et on passe beaucoup de temps à l'observation, ça c'est certain. Hein. C'est une des grandes qualités du naturaliste, c'est d'observer un petit peu ce qu'il a autour de lui. Et pour moi, c'est vraiment un enchantement d'avoir un jardin comme ça, un jardin vivant, où il se passe plein de choses, et ce qui fait qu'il n'y a jamais d'ennui d'un jardin naturel et sauvage.
Quels sont les réflexes que vous avez abandonnés quand vous êtes mis à cette sauvegarde de la nature ?
Alors déjà, dans son jardin, il ne faut pas intervenir à n'importe quel moment, à n'importe quelle époque, parce qu'il y a des époques plus sensibles que d'autres. Hein. Par exemple, pendant la nidification des oiseaux, il faut éviter de tailler ses haies. Donc c'est une période qui va du mois de mars jusqu'au mois de juillet à peu près, fin juillet même. Et puis, y a plein de choses qu'on évite de faire. Alors, on essaye de pas cueillir trop les fleurs qui sont dans son jardin pour les laisser aux insectes hein, qui viennent les polliniser et puis surtout se nourrir. Voilà, tout un tas de choses comme ça qui font que toute la faune sauvage va pouvoir trouver à s'y nourrir.
On parle de faune sauvage, on parle d'insectes, on peut imaginer que certaines personnes considèrent ça comme des nuisances. Comment on inverse ce sentiment de nuisance pour un côté bénéfique ?
Alors, ça, c'est pas toujours facile, parce que des fois, c'est bien ancré dans les esprits, une espèce de domination de la nature, hein, qui date de très très vieux, en fait, hein, parce que les jardins à la française, c'est un héritage un peu de la royauté, avec un jardin très structuré, voilà. Donc là, c'est tout le contraire, hein, on taille pas les végétaux en cube ou en rond, on essaye de faire en sorte qu'ils aient un port le plus naturel possible. Et puis c'est un petit peu le jardin fouillis, quoi. Les végétaux s'entremêlent les uns entre les autres, et c'est vrai que c'est un aspect un peu difficile pour les citoyens que nous sommes en France, où on a été formaté à un jardin beaucoup plus structuré, beaucoup plus strict, et pour moi moins sympa, quoi.
Alors, notamment un côté fouillis, mais pour permettre aussi à la nature de vivre et laisser donc ces espèces proliférer et se développer, parce que vous évoquiez le fait de la disparition d'un grand nombre d'individus pour beaucoup d'espèces. On va rappeler quand même le rendez-vous, donc c'est le samedi 28 mai. Comment faut-il faire pour venir visiter votre refuge ? Qui se trouve-vous d'ailleurs ?
Alors, mon refuge se trouve sur la commune de Lavalat-Angiers, hein, tout près du village de Lavalat. Et pour venir, il faut déjà s'inscrire à la LPO, hein, parce que, effectivement, s'il y avait trop de monde, ça serait peut-être un peu petit pour accueillir tout le monde. Donc voilà, mais vous pourrez voir en pratique ce qu'on peut faire, ce qu'est un refuge LPO, quoi, concrètement.
Alors, il faut aller sur le site internet de la LPO Loire ou appeler directement pour pouvoir s'inscrire. Une balade est même organisée, hein, c'est une sortie nature. On va terminer cette émission comme avec chacune des interventions de membres et de bénévoles de la LPO. Rapport à votre refuge, est-ce que vous avez une anecdote ou une histoire à raconter, une rencontre particulière ?
Oui, bien sûr, j'en aurais plein, mais j'en ai une qui m'a particulièrement surpris, c'est d'avoir une fois un coucou qui est né dans mon jardin, quoi. Et ça, c'était assez surprenant, parce que le coucou est quand même un oiseau relativement sauvage, discret, et qui s'approche pas trop des maisons. Et là, ça a été vraiment une surprise incroyable. D'abord, j'y croyais pas au départ, parce que c'était des assentants mouchets qui l'ont élevé. Hein. Alors, moi, je pensais que ça avait raté, hein, parce que j'avais vu le coucou qui tournait autour de la maison. Donc, je me disais, tiens, on dirait que c'est une femelle qui cherche à pondre dans un nid. Mais j'étais loin de penser que ça s'était vraiment réalisé. Et quand j'ai vu le coucou sortir du nid, ça a été assez extraordinaire, hein, parce que À quelques jours près, je ne l'aurais peut-être pas vu, hein, il s'est échappé du nid, il s'est posé sur une branche un peu en évidence et j'ai vu la senteur mouchée venir le nourrir, donc j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un coucou qui était né dans mon jardin.